Bonjour à tous. Le Hamas a donc fermé hier l'unique point de passage entre la bande de Gaza qu'il dirige et Israël après l'assassinat d'un de ses commandants militaires. Mazen Faka chapeautait entre autres les cellules des brigades Nesdin el-Qassam, la branche armée du mouvement islamiste. Le mouvement islamiste qui impute cet assassinat à Israël et plus précisément au Mossad qui aurait commandité cet assassinat perpétré par des collaborateurs. Ce sont les termes employés par le mouvement palestinien de cette enclave. Israël n'a fait aucun commentaire sur la fermeture de ce point de passage et encore moins sur l'élimination de cet homme abattu en pleine rue vendredi dernier. Nous retrouvons Cathy Bisraor à Jérusalem. Cathy, bonjour.
Bonjour Jonathan.
Est-ce que cette situation représente un nouveau risque d'escalade entre Israël et Gaza ?
Pas la fermeture en tant que telle qu'a décrété le Hamas, qui est apparemment une tentative ultime pour essayer de retrouver les assaillants, ce qui est certainement sera très compliqué. Mais c'est clair, si vous voulez, que ce type d'opération qui est imputée à Israël par les Palestiniens a toujours des risques d'escalade. On l'a vu dans le passé, des dizaines d'années précédentes, à chaque fois qu'il y a eu une opération, une telle opération israélienne qui touche un responsable important du Hamas. Et là, il s'agissait d'un responsable important du Hamas. C'est sûr que le Hamas va tenter, ou dans le court terme ou dans le moyen terme, de se venger, de faire de représailles. D'où d'ailleurs le fait que l'armée israélienne a décrété l'état d'alerte depuis quelques jours, depuis cet assassinat dans l'ensemble de la région sud d'Israël.
Quelle est la logique, Cathy, si l'on peut parler de logique du Hamas dans cette affaire, puisque effectivement le mouvement islamiste a dès le début, dès vendredi, pointé la responsabilité israélienne derrière cet assassinat?
Oui, parce que si vous voulez, le passé de ce terroriste qui avait été condamné à plusieurs, neuf prisons à perpétuité, qui a ensuite été relâché dans l'affaire de l'accord Shalit et qui a continué en fait à programmer des attentats contre Israël, faisait véritablement de lui une des cibles. Il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais une des cibles d'Israël. Et donc de manière naturelle, les Palestiniens ont accusé Israël. Ce qui est très intéressant, c'est comme vous dites, quelle est la logique, ou plutôt exactement, quelle est la marge de manœuvre du Hamas? Parce qu'il est clair, si vous voulez, que d'un côté, la logique fait que le Hamas doit réagir, ne serait-ce que pour la rue intérieure palestinienne, pour les forces internes du Hamas. De l'autre côté, le Hamas, et on le voit d'ailleurs, regardez, depuis quelques jours, il n'y a pas eu de représailles pour l'instant, pas de tirs de roquettes, parce que le Hamas craint énormément que des tirs de roquettes massifs, ce qui avait été le cas avant la guerre de 2014, replongent toute la région dans une guerre. Or, le Hamas aujourd'hui ne veut absolument pas de conflit avec Israël pour le court terme. Ce qui fait dire aux commentateurs, si vous voulez, aux gens qui connaissent bien la scène israélo-palestinienne, c'est qu'il est très possible que le Hamas choisisse notre territoire de représailles, à savoir directement à partir de la Judée-Samarie ou un attentat à l'intérieur d'Israël ou à l'extérieur. On se rappelle qu'après l'élimination d'un des chefs du Hamas, il y avait eu ce fameux attentat tragique, dramatique contre la communauté juive d'Argentine.
Un mot également sur un détail qui n'en est peut-être pas un en fait, Cathy. Pourquoi est-ce le Mossad qui est pointé du doigt et non pas le Shin Bet, qui est le service de renseignement intérieur israélien?
Alors ça, c'est très intéressant. C'est vrai que aussi bien en Israël que les Palestiniens d'ailleurs, qui s'y connaissent bien en service de sécurité israélien, disent que c'est le Mossad. Il y a plusieurs raisons, parce que la raison principale, c'est la manière dont a été opérée cette affaire. En général, lorsque le Shin Bet intervient, le Shin Bet, service intérieur de l'armée israélien, c'est qu'ils ont des renseignements et alors ils utilisent en fait souvent l'armée de l'air ou des drones et ils tirent un missile précis sur un véhicule ou sur un terroriste. Là, c'est véritablement une opération de l'intérieur mystérieuse, puisque des assaillants tirent à bout portant sur un terroriste et ensuite s'évanouissent dans la nature. Et la deuxième raison, c'est le fait, si vous voulez, que c'est une opération qui a été apparemment bien préparée par des vrais professionnels, puisque cela s'est passé dans le parking souterrain de l'immeuble de ce terroriste, qui est un parking ultra sécurisé, et que pour pénétrer à l'intérieur de ce parking, il fallait évidemment connaître très bien le terrain, avoir des informations de l'intérieur, et donc de manière logique, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait le Mossad ces dernières années dans le monde, et donc les regards se sont tournés vers les services secrets israéliens.
Et parce que nous parlons du Mossad, évoquons, Cathy, ces révélations qui ont mis en lumière la semaine dernière la coopération entre le journal Le Monde et le Mossad, précisément sur notamment les armes chimiques syriennes. Quels sont les commentaires qui sont faits à ce sujet en Israël ?
les liens entre le Mossad et les services secrets français. C'est-à-dire, c'est le Monde qui a révélé qu'il y avait eu, le journal Le Monde qui avait révélé qu'il y avait eu des coopérations, ce qui est, à mon avis, passionnant comme affaire, en tout cas, qui a passionné en Israël. Pourquoi ? D'un côté, on parle, comme vous savez, des tensions politiques entre Israël et la France. Et regardez ce qui se passe loin des regards, une coopération très étroite, apparemment, parce que Le Monde a raconté une partie de l'affaire. Il y a certainement beaucoup de choses que Le Monde ne sait pas et n'a pas raconté, mais c'est un petit peu, si vous voulez, la partie visible de l'iceberg. Mais ce qui s'avère, si l'on comprend, on lit entre les lignes les révélations du journal Le Monde, c'est qu'en fait, le Mossad israélien et les services secrets français coopèrent étroitement. Là, s'il s'agissait de tenter d'obtenir des informations sur les armes chimiques syriennes, avant même qu'il y ait des opérations de la coalition internationale contre la Syrie, l'intervention de la Syrie, de la Russie, donc bien avant. Et ça prouve donc que sur le terrain, au Moyen-Orient, vous avez une coopération des services secrets français et israéliens, et c'est évidemment très intéressant en tant que tel.
Et de cette coopération et la diplomatie, franchissons le pas pour parler des relations entre Israël et les États-Unis, qui sont plutôt en demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire, Cathy. Et vraisemblablement, la fameuse lune de miel entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump n'a pas vraiment eu lieu, ou en tout cas n'a pas encore eu lieu.
Ça dépend à qui vous posez la question, Jonathan. Si vous la posez la question à Benjamin Netanyahou, il vous dira pas du tout. Nous sommes en pleine lune de miel, nous avons des coopérations étroites, un dialogue étroit. La preuve, l'envoyé spécial de Donald Trump était en Israël. Nous avons envoyé des délégués à nous, des représentants à Washington. Ça, c'est l'officiel. Mais c'est vrai que si on voit un petit peu ce qui se passe, d'un côté, vous voyez qu'il y a un dialogue. Et un dialogue réel, puisque l'administration Trump reçoit des personnalités israéliennes de la droite. Par exemple, le maire de Jérusalem accueilli sur tapis rouge. La semaine dernière, hier, c'était Naftali Bennett, le numéro un du foyer juif. Ça avait été du jamais vu, évidemment, dans l'administration Obama. Mais si vous rentrez dans les détails, vous apercevez que ce qu'a demandé Benjamin Netanyahou, pour l'instant, en tout cas, il semble qu'il ne l'a pas obtenu. Il voulait en fait une sorte de feu vert pour la construction dans les territoires. Pas tout construire, tout ce qu'il veut, mais une grande partie, et notamment construire une nouvelle implantation pour reloger les fameux habitants de l'implantation d'Amona. Et apparemment, ça, il ne l'a pas obtenu, encore en tout cas, de Donald Trump.
Et nous concluons votre correspondance, Cathy, avec cette nouvelle qui n'est pas sans rappeler les circonstances dans lesquelles les rouleaux de la mer morte avaient été découvertes. Récemment, ce sont des adolescents qui ont fait une découverte archéologique.
Oui, c'est vrai, vous avez raison que ça ressemble un petit peu. En fait, il s'agit, vous savez que l'archéologie ici, c'est le sport national et tout le monde y participe, les adultes et les enfants, et beaucoup d'enfants. Et en général, les enfants y participent. Ils reçoivent d'ailleurs un certain salaire très minime, ils reçoivent. Ça a été le cas de 240 enfants qui ont participé à des fouilles archéologiques classiques dans la région de Beth Shemesh. Il s'agissait uniquement de déplacer quelques pierres et c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils ont fait pendant 3-4 jours. Et puis à la fin, ils ont eu une après-midi de liberté. Alors au lieu d'être devant leur iPhone, leur téléphone et ou de discuter entre eux, ils ont fait un petit peu de l'escalade et ont trouvé un trou et se sont infiltrés à l'intérieur de ce trou sans que tous les responsables de cette fouille ne le sachent. Et ils ont découvert vraiment par hasard un système incroyable au cœur de Beth Shemesh, pas loin de la ville de Beth Shemesh, de systèmes de mikvé, donc de bains rituels et de grottes, avec une découverte archéologique qui est considérée ici comme une des grandes découvertes archéologiques à sensation de ces 10 dernières années. Et tout ceci, évidemment, va être mis en exergue et évidemment exploité. Mais voilà, 240 ados israéliens qui, par hasard, ont fait donc cette découverte incroyable au cœur de Beth Shemesh, qui prouve une présence juive il y a quelques 2000 ans exactement à cet endroit.
Merci, Cathy Bisror, pour toutes ces nouvelles apportées en direct depuis Jérusalem. On vous retrouve évidemment lundi prochain pour une prochaine correspondance du lundi.